Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, il y aura le journal de la culture. Et puis notre invité est Lee Seung-moon pour la sortie en DVD de Duke Obu 3, film à nouveau à l'affiche dans les cinémas qui ont réouvert, faut-il le rappeler. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino évidemment. Et puis dans les indispensables, le retour d'un géant du rock et une série satirique sur un projet de conquête spatiale. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Avant votre portrait inattendu, c'est le journal de la culture qui démarre par la réouverture du Louvre. Le compte à rebours, tiens, c'est comme dans la conquête spatiale, le compte à rebours est lancé.
Eh oui, ça y est, le musée ouvrira le 6 juillet. Alors, avec de nouvelles règles, évidemment, le masque sera obligatoire à partir de 11 ans. Et il faudra venir surtout avec le sien, puisqu'il n'y en aura pas à disposition. Alors, il y aura également un sens pour la visite. Et pour admirer la Joconde, le nombre de poteaux et de serpentins a été doublé pour que les visiteurs puissent maintenir une distance. Réservation en ligne uniquement et 30% des salles seront fermées. Le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, mise sur 8 000 à 10 000 visiteurs par jour. C'est beaucoup moins qu'habituellement. Hier, seules 12 000 personnes avaient réservé un créneau pour le mois de juillet et il n'y a aucune pré-réservation encore pour le mois d'août.
C'est horrible pour le musée. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait moins de monde, pardon.
C'est pour admirer.
Direction Strasbourg maintenant pour un hommage à Beethoven.
C'est toujours surprenant, hein ?
Ouais.
Un petit peu, je vous ai
Et on
vu.
Aurait pu choisir un morceau connu quand même.
Bah oui. Alors oui, je suis perdue. Alors oui, l'été sera Beethoven à la cathédrale de Strasbourg, puisque chaque année un spectacle est projeté. Les œuvres du compositeur allemand seront mises à l'honneur. Il est né il y a 250 ans, tout pile. Le spectacle dure 12 minutes. Il se découpera en 5 tableaux. Cela commence le 25 juillet et jusqu'au dimanche 20 septembre. 3 représentations auront lieu chaque soir. Notez bien, 22h15, 22h30, 23h. J'essaye de suivre la musique. 2000 personnes maximum par séquence et le port du masque sera obligatoire.
Vous connaissez la programmation, Hélène, du Festival de cinéma en plein air de la Villette à Paris.
Et oui, Philippe, il se déroule du 22 juillet au 23 août. Il sera possible donc d'assister gratuitement au festival. Il faudra tout de même réserver. Cette année, le thème, c'est Grandeur Nature. Alors, les films que vous pourrez voir ou revoir, ça commencera donc avec Le Grand Bain de Gilles Lelouch, puis Easy Rider de Dennis Hopper, Mad Max, Kirikou, Into the Wild, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, et puis Thelma et Louise, Une histoire vraie, Out of Africa. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Ouais. Et le festival se terminera avec Le Grand Bleu de Luc Besson.
Justement, bah tiens, Le Grand Bleu de Luc Besson qui a fait Les Beaux Jours du Grand Rex et Le Grand Rex qui met à l'honneur un très grand réalisateur.
Oui, le cinéma parisien et son écran XXL diffusera pendant 4 jours du 13 au 16 juillet tous les films de Quentin Tarantino, presque tous, les deux volets de Kill Bill, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Jackie Brown, Django Unchained, Les 8 Salopards. Cette rétrospective se déroulera juste après celle consacrée à Steven Spielberg et Christopher Nolan.
Et puis on va terminer ce journal en musique.
Julien Doré est de retour. Il annonce dans un message sur Internet un retour à 19h avec La Fièvre, le titre du premier extrait de son futur album. Un clip sera également disponible. Julien Doré précise que s'il revient, c'est qu'il a des choses à dire. On a hâte. Une pause longue, précieuse, inspirante selon lui. Il témoigne aussi du manque de son public et il a hâte de prendre la température de chacun.
Et oui. J'ai lu son texte qui est absolument savoureux et j'ajoute qu'on connaît le lauréat du prix littéraire Europe 1 GMF dont on a beaucoup parlé ici avec Nicolas Carreau. Il s'agit de Karl Aderholt et le livre c'est Le Théâtre des Nuits, c'est aux éditions Stock. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour
à
votre portrait inattendu.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Lee Seung-moon.
Bonjour Lee Seung-moon.
Bonjour, comment ça va Philippe?
Mais je vais très bien, vous êtes humoriste.
On est en train de calculer le nombre d'années, depuis combien de temps on se connaît.
Mon Dieu.
Ça fait peur. Hein.
Mon Dieu, ça fait peur.
On va passer à autre
peur.
Chose, hein, d'accord ouais. Merci, au revoir.
Vous avez plein de choses après votre duo avec Dieudonné. Vous avez été en solo, des one-man shows, dont Merki, c'est devenu une expression courante, les petites annonces avec Dubosc. Plein de films, vous avez joué dans plein de films, dont L'élève du Cobu, qui a cartonné chez les jeunes, mais pas seulement, au point que le numéro 3 sort désormais en DVD, après être sorti en salle en février. Grande nouveauté.
Et il ressort en salle, pardon.
Oui, exactement. Ouais. Les cinémas ont rouvert, c'est vous qui l'avez réalisé, et non sans succès. Les deux premiers avaient dépassé le million d'entrées, et le vôtre, il a fait combien?
1,5 million. Mais c'est oui. pas mal. Hein.
Il a même fait plus. J'ai regardé ce matin, il a fait 1000 de plus que le premier.
Ah, c'est vrai.
Le premier a fait 1 454 000 et le dernier a fait 1 455 000. Et le deuxième a fait 1 million.
Super.
Ducobu, c'est un élève. Oui. Alors, il est élève dans quelle classe?
Alors, il est élève, on va dire qu'il. Pour moi, il est en CM2.
Ouais.
Voilà. Parce que, ouais, il est en CM2. Il a entre 10 et. Il a 11 ans. Enfin, le petit acteur que j'ai pris, il avait 13 ans.
Ouais.
D'ailleurs, maintenant, c'est un monstre. Hein. Il est camionneur, il a de la barbe. Non, j'exagère, mais ils ont vraiment grandi très, très vite. Mm-hmm. D'ailleurs, on pense à un Ducobu 4. J'aurais tellement voulu les reprendre, mais je ne peux pas.
Mais non, c'est ça. Ça s'appelle la puberté.
Ça s'appelle le temps qui passe. Voilà, tout
ça se passe à quelle période, d'ailleurs? Je pose la question, parce que vous êtes un instituteur.
C'est une bonne
à
question. Hein. Ouais.
Mais le papa de Ducobu roule en Renault 5,
oui.
comme dans les années 80. Bah, mais ils ont des portables et ils achètent des trucs sur le bon coin, comme
oui.
dans les années 2000.
Non, mais c'est une bonne réflexion, ça ne m'étonne pas de ce Vandel. Le petit fouineur, il regarde tous les petits détails, ouais. hein, ça l'intéresse. Hein. Mais en fait, tu as parfaitement raison. En fait, c'est un film complètement hors du temps. Mmh. C'est-à-dire qu'un professeur comme Latouche, il n'y en a plus. Des gars en blouse et non. qui gueulent et qui ont des méthodes un peu nazies
ouais.
avec les enfants, ça n'existe pas. En même temps, en effet, il y a les portables, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a le mini-conservatoire... C'est complètement
c'est
à part,
les époques
en fait.
À la fois. C'est un
millefeuille. Ouais, c'est complètement à part.
Ah bah
ouais,
tiens,
ouais.
autre genre de millefeuille, la bande-annonce.
Ouais.
Le roi de la triche est de retour. Sa mission, sauver son école.
J'ai une immense nouvelle pour toi. Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école?
Le lion est mort ce soir.
Inscris-toi au mini
conservatoire.
Mais tu chantes comme une casserole.
Mais je triche comme un roi. Ça va être la triche du siècle.
Bienvenue dans le temple de la triche.
À partir de maintenant, on est les frérots de la tricha.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots.
On est sauvés.
Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix.
Je sais pas comment il fait, mais il triche.
C'est tiré de la BD qui porte son nom.
On est en train de discuter, pardon.
Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est tiré de la BD qui porte le nom du Cobu, mais c'est vous qui l'avez écrite, cette histoire.
Oui,
cette histoire
oui, originale. je l'ai co-écrite.
C'est quoi le fil de l'histoire?
Saint-Potage est en péril, il n'y a plus d'argent, il faut en trouver. Et Ducobu va se charger de trouver de l'argent d'une façon assez originale.
Un concours de chant.
Voilà, en participant à un concours de chant, mais en éjectant le beau gosse du collège, en l'éjectant à sa façon et en trichant à sa façon.
Et il y a un concours de cancre. Autre nouveauté, on va apparaître un nouveau personnage, la maman de Monsieur Latouche, donc votre mère.
Ouais.
C'est vous qui l'a joué. Mmh. Et alors, là, la question est sérieuse. On pourrait croire qu'il s'agit là seulement d'une performance de comédien, sauf que je vous en parle parce que vous en parlez souvent à Lycée Moon. Votre maman est morte quand vous n'aviez que 11 ans. Donc
elle n'était pas
gros,
comme ça.
Elle en plus, non mais c'est encore plus dingue que ça, c'est encore plus oedipien que ça.
Elle est castratrice.
Et en plus, elle est morte quand vous aviez 11 ans, donc l'âge de Ducobu.
Exactement.
Pourquoi avoir eu envie de jouer votre propre mère?
Il est chiant ce Vandel, qu'il est chiant. Oh là là, toujours à poser les petites questions.
Mais c'est la bonne question.
C'est la bonne question. Tu es un très bon intervieweur. Non, ma maman était prof de français, comme par hasard, évidemment. Et en effet, elle est morte quand j'avais 11 ans. Mais il n'y a pas de rapport avec Maman Latouche, évidemment, parce que Maman Latouche...
Vous jouez votre propre mère, c'est quand même juste dingue.
Je la fais revivre, mais physiquement, elle est dégueulasse, Maman Latouche. Elle fait très très peur, ce qui n'était pas le cas de ma maman. Mais c'est vrai que symboliquement, j'avoue qu'il y a quelque chose, en effet.
Ouais, c'est totalement oedipien.
Mais maman était moins méchante que Maman Latouche.
Ah bah ça, plus méchant, c'est pas possible. C'est Himmler ou Göring, donc c'est pas possible.
Exactement.
Je l'ai dit, c'est complètement oedipien, et vous pouvez vous allonger, on va rester dans la psychanalyse, parce qu'en plus, vous jouez un troisième personnage, qui est l'instituteur de l'école rivale, dans le concours mini-conservatoire, et ça même plus loin, puisque vous draguez vous-même votre propre fiancé.
Et je me dis, mais complètement schizophrène.
Mais oui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans le cerveau, Elise Moon?
Enfin, je ne sais plus si on doit se vous voyez ou se tutoyer.
On se dit vous.
Ok, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime faire des personnages, depuis les petites annonces, depuis l'émission dans laquelle vous aviez participé.
Mais je ne pensais pas que vous étiez
aussi taré. Aussi tarabiscoté. Mais. C'est drôle, c'est jouissif pour un comédien de faire plusieurs personnages.
Oui.
Réaliser un film, jouer trois personnages, diriger des acteurs, c'est un challenge, c'est quelque chose que j'avais jamais fait.
J'ai bien compris, plein de gens ont fait ça. Ouais. Y jouer sa propre mère et son propre rival, il y a quelque chose qui soigne
une fois par semaine pendant 20
ans. Vous en avez conscience quand même quand vous l'avez écrit.
Évidemment que j'en ai conscience. J'en ai conscience, mais j'ai pas... on va dire que j'ai pas une explication... très clair à ça et j'ai même pas envie de la trouver.
Juste un mot, commencer de faire tourner des enfants, on m'a dit que c'était encore pire que faire tourner des chats.
Ouais, des animaux. C'est très... Ça demande beaucoup de concentration parce qu'ils sont pas du tout concentrés. Parfois, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc, il y a une scène entière que j'ai mis à la poubelle parce qu'il la jouait tellement mal. Mais ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. Ouais. Donc, il fallait leur expliquer. Et puis, quand on arrive quand j'arrivais à obtenir ce que je voulais, c'était formidable. C'est un miracle. Mais moi, j'adore les enfants. Hein. Je dis ça au premier degré. Hein. Vraiment, n'allez pas...
Vous l'avez dit, puisque vous voulez même repartir pour un Duc au but 4.
Oui.
Et encore avec des enfants.
J'adore leur univers. J'ai une passion pour François Truffaut, par exemple, qui avait fait L'argent de poche, entre autres. Ouais. Et on sent que, dans sa façon de filmer, il aimait les enfants, il aimait les faire parler,
et Jean-Pierre Léo, qui est presque devenu son fils putatif.
Oui, complètement.
Vous restez avec nous. On va soigner
tout
ça
fait, mon cher.
Au niveau de la psychanalyse avec Élie Semoun.
Je vais déjà mieux. Hein.
Grâce au portrait inattendu d'Hélène Manarino, on apprend à découvrir chaque jour un peu plus nos invités. Et ce sera votre tour, Élie Semoun, dans un instant sur Europe 1.
Je ne pas.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Élie Semoun, Hélène Manarino, Hélène Manarino, Élie.
Je m'attends au pire, vu le regard qu'elle me jette.
Mais non, pas du tout, je suis remplie de bienveillance.
Ah, très bien.
Bonjour, Élie Semoun.
Bonjour. Ouais.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, ou peu. Alors je vais faire très attention parce qu'il y a certains tics de langage que vous ne supportez pas, comme dire « du coup ».
Ah oui.
Mince, je le dis tout le temps.
C'est terrible, c'est vrai. C'est terrible.
Attention, Philippe.
Même je l'écris parfois.
Alors, il y a d'autres choses que vous ne supportez pas, comme attendre des heures pour manger dans les restaurants très classe. Vous n'aimez pas louper un appel téléphonique, vous décrochez en toutes circonstances, vous détestez rater un train, c'est pour ça que vous arrivez toujours une heure à l'avance. Et surtout, vous ne supportez pas le côté casse-cou de vos neveux et nièces, comme lorsqu'ils font de la moto. Cela vous angoisse, mais vous savez les faire rire, évidemment, en leur faisant des petits doigts d'honneur de manière très subtile, comme pour vous gratter le nez.
Non, c'est vrai.
Non, mais... Alors, attendez,
non. Question à laquelle elle ne répond
c'est
pas,
c'est
celle-ci.
Renseignements.
Non.
Oui, j'apprends des insultes
c'est quoi,
aux enfants.
Doigt d'honneur. Faites-le, vous êtes
je leur fais des doigts d'honneur. Voilà, un doigt d'honneur, c'est ça.
Non, je sais, mais
oui,
on se gratte.
Comme ça, devant ma petite nièce, comme ça.
Elle a quel âge ?
On discute, elle a 9 ans. On discute, on est à table comme ça, puis je lui fais des doigts d'honneur. Elle fait « Maman, maman, il y a tout un doigt d'honneur !» Je dis « Non, pas du tout !»
Alors, eux, ils vous apprennent à sauter sur un trampoline, faire des saltos. Et pourtant, Élie Semoun, vous êtes aussi un aventurier. Vous savez, marcher sur les murs. Vous le faisiez très souvent, le long du couloir de votre maison, hein, Anthony.
Comment elle sait tout ?
Elle sait tout.
Monter sur un arbre pour vous isoler quand vous étiez petit. Eliaou, c'est comme ça que votre papa vous appelait, entre deux parties de Scrabble, d'atelier peinture avec des pailles. Vous vous cachiez aussi dans votre cave pour vous changer et mettre vos chaussettes de couleurs différentes avec un pantalon très court. Votre papa ne devait pas savoir ça.
C'est vrai ça ?
Mais oui, c'est vrai. Quand j'allais au lycée Descartes... Je m'habillais n'importe comment.
Mais pourquoi dans la cave ?
Bah parce que je devais partir habillé normalement et puis après dans la cave je m'habillais n'importe comment et j'allais à l'école.
Ah,
en représentation.
Vous vouliez pas être habillé comme vos parents le souhaitaient.
Bah oui, bien sûr. Ouais.
Alors petit casse-cou vous l'étiez, vous avez lancé des pots de moutarde dans l'escalier de votre lycée. Vous continuez d'ailleurs à jeter des choses par la fenêtre, un abricot pourri par exemple, ça vous arrive. Vous avez tiré au fusil dans votre maison de campagne et les voisins ont dû appeler votre père pour lui dire qu'il y avait des coups de feu.
C'est vrai.
Je regrette d'avoir fait cette émission. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai fait beaucoup de conneries. Hein. J'ai pas vieilli vraiment. Hein. Enfin,
on y vient à tout ça parce que vous êtes aussi un vrai romantique. Vous avez été capable d'entrer dans une salle de classe pour offrir un mot d'amour à une jeune fille en plein cours d'espagnol et vous rêvez aussi d'amour sur cette chanson. Even just to say,
just to say goodbye.
Stacy Kent. Alors, l'aventurier, le romantique, mais ce n'est pas tout. L'ambitieux aussi. Quand vous avez reçu votre premier cachet grâce au cinéma, vous aviez préparé une mise en scène chez vous. Votre sœur et votre père rentraient des courses et là, dans le salon, un lampadaire, une cassette remplie de billets. Vous êtes sorti de derrière la porte et vous avez jeté l'argent pour célébrer finalement ce qui allait devenir votre vie. Alors, Élie Semoun, vous êtes un chef de la vanne, du travail. Vous l'avez toujours eu avec des habitudes pour vous mettre en condition. Vous buvez du thé toute la journée. Alors attention, les thés fruités. Avec des fleurs, vous collectionnez tous les thés mariage frères. Vous adorez les tartines au beurre salé, le beurre de cacahuète.
Comment elle sait tout ça?
Mais c'est tout ça possible. Élie, tu vas pas le dire jusqu'à la fin du.
Les réglisses. Bon, d'accord, ok, je me tais.
Les réglisses. C'est Hélène Manarino. Salées. Ouais, enchantée. Les réglisses salées également. Côté cuisine, vous n'êtes pas très très doué, mais ça s'améliore. Vous savez faire des œufs, des pâtes. Il faut juste remplir votre frigo. Pour communiquer avec vous, on peut finalement le faire toute la nuit puisque vous êtes insomniaque. Pourtant, votre lit peut être votre endroit préféré pour travailler en vous concentrant et en écoutant ça.
C'est vrai. Dis donc,
c'est pas possible.
Wagner,
je suis troublé.
Ça incite pas à la modestie, hein.
À la modestie, comment ça? Non, c'est beau, Wagner.
Ah oui, bien sûr que c'est
mais
beau.
Mais en quoi je serais prétentieux d'écouter
c'est
Wagner?
C'est grandiloquent,
ah,
grandiose.
C'est grandiloquent, mais c'est magnifique. Ah bah je pourrais en parler magnifique. Des heures.
Ouais. Et parfois, vous êtes l'incompris, comme le nom de votre film préféré. L'incompris lorsqu'il s'agit de noter vos rendez-vous dans vos agendas Covadis. Il est toujours du même format, toujours de la même couleur. Et c'est dans cet agenda que vous notez vos barbecues du dimanche. D'ailleurs, il y en a un dimanche chez vous.
C'est vrai.
C'est moule. Oui. Il y a un barbecue.
C'est samedi. Hein.
C'est samedi, pardon.
Si vous voulez venir, d'ailleurs.
Chacun rapporte un truc à manger. Ça peut être, par exemple, de la pêche au thon, ce qui vous a beaucoup amusé.
Ah oui, j'adore la pêche au thon. Oui, mais ça, c'est mon...
Vous ne buvez pas d'alcool, à part du cidre. Ouais. Vous célébrez la vie tous ensemble. Vous testez vos nouveaux sketchs sur vos amis. Vous les piégez aussi en allant jeter les bouteilles dans votre poubelle pour le verre. Vous y allez discrètement. Vous jetez la bouteille d'une façon très brutale pour que ça fasse un bruit insupportable et que tout le monde sursaute.
Pour leur faire peur.
Et puis, il y a les parties de badminton. Alors attention, chez Elie Semoun, on joue pieds nus pour ne pas abîmer la pelouse.
Non.
Et surtout, vous n'aimez pas perdre. On connaît votre passion évidemment pour les abeilles, le miel. Mais là, récemment, vous avez créé dans votre jardin un petit bassin pour les poissons. Et vous l'avez fait tout seul. Alors des dimanches à écouter du jazz, à faire des bœufs en fin de journée. Et surtout à chercher le bip de votre parking que vous perdez tout le temps. Vos amis se garent, mais impossible de sortir car le bip tout petit est toujours égaré.
Oh là là, oui, le piège à meuf en plus.
C'est ça.
Non. C'est pas...
Mais c'est vrai, ce bip, on ne le trouve jamais. Alors, bref, des choses simples avec cette... priorité qui a toujours été en vous, votre famille, que vous appelez tous les jours ou tous les deux jours, avec ces images de votre père que vous avez longtemps filmé, immortaliser ces moments en images ou dans votre mémoire, Elie Semoun, le clown triste, comme vous aimez parfois vous définir, faire rire, émouvoir, agacer peut-être, mais avec toujours cette priorité finalement, rendre heureux ceux qui vous entourent, et votre plus belle aventure, c'est donc celle-là.
Merci beaucoup Hélène.
Alors là, je suis troublée. Je ne sais pas comment vous avez eu tous ces renseignements, mais je peux vous dire que tout est vrai.
Et d'un mot, alors, c'est quoi, Élie, la pêche au thon?
En fait, j'étais vraiment mauvaise langue en disant que vous alliez peut-être me casser ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que vous êtes bienveillante.
Et d'un mot, c'est quoi la pêche au thon?
La pêche au thon, alors, j'ai une amie belge, en fait, qui nous a fait ça, voilà. Qui nous a régalé avec de la pêche au thon, mais c'est pas très compliqué à faire.
D'accord.
Mais c'est fait avec amour.
C'est vrai qu'il y a souvent où on pêche le thon en Belgique. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Merci Hélène, c'est gentil.
À suivre nos indispensables avec au menu Space Force, une série humoristique avec John Malkovich sur Netflix, et Neil Young qui déconfine un album de 1975. On en parle avec notre invité Elie Semoun dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. On va parler musique dans un instant avec Angèle Châtelier, toujours en compagnie de notre invité Elie Semoun.
Musicalement, ça va être différent un peu de Wagner. Comment vous avez vécu le confinement? Vous avez travaillé? Vous avez fait quoi?
Ah, je pensais avoir du temps pour moi. Je me disais, je vais lire, je vais faire des choses. Je n'ai rien fait. J'ai fait des bêtises sur Instagram avec Franck.
Ouais.
J'ai fait quelques émissions. J'ai lancé quelques appels pour les pâtes de mon papa. J'ai pas réussi à lire un livre. J'ai pas réussi à voir une série sur la longueur. C'est bizarre.
Ouais.
Sans perspective comme ça.
Vous êtes rasé la tête.
Oui. Je suis rasé les cheveux. Ouais. C'est bien, non?
Ça
change.
Vous n'êtes pas chez Magnatis ici, chacun est libre de sa coiffure. Ouais. Vous avez jardiné aussi?
Ouais, j'ai beaucoup jardiné.
Parce que là, j'ai vu votre jardin, je me suis dit, c'est grand comme trois terrains de foot.
Il est beau. Non, c'est pas si grand que ça,
mais il y a
plein d'endroits différents.
Enfin, ouais.
C'est comme un tableau, il y a des endroits d'ombre, de soleil, etc. Et franchement, il est très beau.
Et vous racontez sur votre compte Instagram, vous avez révélé même, vous êtes fait insulter par une femme dans la rue.
Oui, alors c'est au déconfinement, je me baladais dans le 16e, je frôle une dame, et puis elle m'insulte avec son mari. En plus, elle avait même pas de masque, et elle s'époussette le bras. Je lui dis, vous faites quoi? Vous enlevez le virus, là? Si vous voulez ne pas avoir le virus, restez chez vous, en fait, c'est complètement idiot. Donc c'était un peu une sorte de c'est la parano post... D'après le déconfinement, et j'ai trouvé ça vachement anxiogène, en fait.
Et du coup, vous
là,
êtes...
là, je trouve que ça se détend un peu. Hein.
Ouais.
Mais quand même, on vous interdit d'aller dans les magasins si vous n'avez pas de masque. Est-ce que c'est utile? Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu une mascarade quand même. Hein.
Oui, mais malheureusement, c'est on le saura peu... après.
On le saura après.
Voilà. Ouais. Mais vous étiez un angoissé à la base? Vous êtes hypochondriaque ou pas du tout?
Du tout. Je n'ai fait attention à rien.
Ouais.
Et j'ai rien chopé. Et j'ai des copains que vous connaissez aussi, qui avaient l'habitude de sortir genre en cosmonaute, hein,
ouais.
Qui nettoyaient tout et qui ont chopé le Covid. Donc,
c'est quoi? J'ai dit oui pour être poli, mais ouais. Qui étaient vos copains qui sortaient en cosmonaute?
Il l'a dit, Gad.
Gad Elmaleh.
Il l'a dit à la télé, donc je le trahis pas. Mais
et il a attrapé
il
le
faisait
virus.
Attention à tout. Il m'engueulait, il me disait « Mais Élie, mais t'es dingue, tu vas dans les magasins, tu sors, etc. » Et c'est lui qui l'a chopé. Bon, enfin...
Les cordonniers sont les plus mal chaussés.
Ouais.
Musique, bonjour André
Châtelier.
Vous n'avez pas attrapé le virus,
non,
vous
non
plus.
Non plus, je crois non. pas.
Pareil, et il y a un grand du rock qui nous fait un beau cadeau, c'est Neil Young.
Et oui, Neil Young. Neil Young ou Neil Young, effectivement, qui a exhumé une merveille, un album Homeground, exhumé car cet album aurait dû sortir en 1975. So here's looking up your old address. Holly, what a mess. We gotta take the rest and try. Hometown est un trésor. 12 titres, 7 inédits, tous envoûtants. C'est sur son site que Neil Young parle de l'histoire de cet album. Trop personnel, selon ses dires à l'époque, pour le partager. Neil Young se sépare alors de l'actrice Carrie Snodgrass, non sans dommage, avec l'avantage au moins d'accoucher de sa détresse en musique. Mais il dit « Le cœur brisé, je ne pouvais pas l'écouter, alors encore moins le dévoiler à son public. »
C'est marrant, toi.
J'adore, moi qui suis fan de Neil Young, je ne suis pas déçu. Et Angèle, ouais. Vous avez quand même trouvé le moyen de parler de séparation.
Oui, bah, les hommes aussi ont des peines de cœur.
C'est
ma spécialité.
Ah ouais. Non, mais tous les albums, toutes les chansons, c'est
ça,
des histoires d'amour.
Complètement,
c'est, tu m'as quitté, tu me manques, je veux te revoir, etc.
Mais ce n'est pas ça une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est je suis heureux de te voir. C'est pas tu m'as quitté.
Bah,
c'est
oui,
dingue
mais,
cette
mais,
vision
mais,
du monde.
Mais oui, mais c'est comme ça. Quand, voilà. Quand on écrit des jolies chansons d'amour, c'est souvent dans la souffrance.
Vous savez quoi? Tous les deux, vous allez bien vous entendre.
Effectivement.
Angèle.
Entre 1975 et aujourd'hui, quelques chansons de cet album abandonné avaient trouvé leur place ailleurs, sur scène ou sur d'autres albums, parfois dans d'autres versions comme White Line qui était d'abord sorti en version rock en 1990. Dans Hometown, cet album exhumé de Neil Young, la chanson White Line n'est donc pas une inédite, mais pas la même pour autant. You were my raft and I let you slide. It seemed like such a long, easy ride. I was adrift on a river of pride. Feels like a railroad. Pull the whole load.
Question Angèle, pourquoi Neil Young s'est décidé à publier maintenant cet album?
Bien déjà parce qu'on espère qu'il se porte mieux par rapport à sa rupture d'il y a 45 ans, on le souhaite en tout cas. Ensuite...
Il s'en remet plus juste.
Voilà. Ensuite parce que Neil Young entreprend depuis plusieurs années d'offrir ce qui lui reste dans les tiroirs, des ébauches d'enregistrements, des chansons inédites, des films, des photos aussi. Il a créé un site dédié à tout ça, le site Neil Young Archive. Il y avait donc dans ses tiroirs ce fabuleux album Homeground.
Shine from that land. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. On va l'entendre en entier. Une réaction à Elie Semoun.
Angèle a l'air d'aimer, en tout cas.
Ouais, ouais.
Elle vous voit.
Et vous, exactement. Ça vous parle, la séparation?
Oui, bien sûr. Tout le monde. Moi, j'ai fait 3 albums. Ouais. Et je parle souvent de ça. Hein.
Ouais.
Voilà, les chansons d'amour, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une chanson, je suis heureux, tout va bien.
Ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord.
C'est comme les sketchs, c'est pareil.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Elie Semoun est notre invité. On revient à son actualité dans un instant. Mais avant, comme promis, on parle série avec Clémence Olivier.
Bonjour Clémence. Bonjour.
Dommage qu'il y ait de la pub. Hein. Ouais, franchement, je pense que nos conversations entre la pub sont aussi intéressantes que ce qu'on dit.
Dites pas ça aux gens, elles sont même plus intéressantes. Bah, mais c'est pas ça, c'est
que
c'est la publicité, c'est ce qui nous fait vivre.
C'est ça qui vous fait vivre.
Voilà. Sinon,
ça vous permettrait de. Si on avait plus, vous pourriez vous acheter un t-shirt un peu plus joli que celui-là. Merci. Au revoir.
Et si votre film faisait plus d'entrée, vous auriez pu avoir une veste.
Je vous emmerde. Je suis venu en short.
Clémence. C'est vrai, en plus il est en short. Clémence, oui, une série diffusée sur Netflix qui vous a intéressé, elle s'appelle Space Force.
Oui, et je suis sûre que le titre vous avait mis sur la piste, on va parler d'espace, mais vu de la Terre, on va même aux États-Unis dans une base militaire secrète, siège d'une nouvelle entité des forces armées.
L'Internet de notre nation, y compris Twitter, passe par des satellites soumis à des facteurs de risque. Patus souhaite dominer entièrement l'espace. Objectif base sur la Lune d'ici 2024. Pour cela, le président a créé une nouvelle branche, la Space Force.
Bon, vous l'avez compris, l'idée avec cette Space Force, c'est d'affirmer sa puissance spatiale. Et aux commandes de cette unité d'élite, on trouve le général Nerd, joué par Steve Carell. C'est lui le personnage principal. Et Nerd, pour vous expliquer, c'est la caricature du militaire. Il n'est pas finaud, il est rigide, patriote, on peut dire raciste aussi. Même d'ailleurs avec les scientifiques de son équipe.
D'où venez-vous, Chan?
De l'Ohio.
Vous y êtes né?
En quoi ça a un rapport avec le satellite? Est-ce que êtes-vous en train d'insinuer que Chan est un espion envoyé par les Chinois?
Nous avons donc entendu l'avis de Monsieur Chan.
Professeur.
Professeur Chan. J'aimerais entendre un deuxième avis. Peut-être de la part de quelqu'un en désaccord avec la ligne du parti.
Si je comprends bien, Clément, c'est moins une série de science-fiction qu'une série comique.
Oui,
c'est humoristique.
C'est humoristique, absolument. Space Force est une comédie absurde, imaginée par Steve Carell lui-même et par Greg Daniels, le créateur de la série culte The Office. Et les deux hommes ont eu l'idée de ce scénario en s'inspirant de la réalité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, Donald Trump avait annoncé la création d'une force de l'espace.
Je me souviens de ça.
Voilà, une Space Force. Elle a même été inaugurée il y a 6 mois de ça. Eh bien, ça, c'était la base de départ des créateurs. Et ils en ont fait une parodie avec un tas de gags et des répliques décalées.
Et alors, sur le fond, vous qui avez tout vu, c'est comment?
Eh bien, la série a du rythme, mais il y a un truc qui est vraiment jouissif. C'est son sous-texte politique. Dans chaque épisode, les créateurs prennent un malin plaisir à se moquer du président Donald Trump. Alors, il n'est jamais nommé, mais les piques et les références sont nombreuses. Je vous en donne quelques-unes. Ouais. Il est question de ses tweets compulsifs, de son amateurisme dans la connaissance des dossiers ou de son attitude d'enfant gâté, comme par exemple le jour de son anniversaire quand il découvre que l'Inde a un espion au sein de la Space Force.
Si j'étais vous, je prêterais une attention particulière à ce que sa journée soit une réussite absolue.
Je comprends tout à fait. On peut peut-être effectuer un tir pour célébrer l'événement.
Pas ça. Trouvez ce fichu espion avant que la presse ne s'empare du sujet. Il faut qu'on fasse tomber une tête. Sinon, c'est la vôtre qui tombera. Bien reçu, général.
Connaissant le président, est-ce que vous comptez littéralement faire tomber une tête ou est-ce une image?
Alors voilà, la série elle est marrante. Après, il faut le dire, elle n'est pas toujours hilarante. Alors certains fans de The Office en sont d'ailleurs émus. Pour autant, je trouve que Steve Carell ne s'en sort vraiment pas si mal.
Et vous le connaissez, Steve Carell, c'est lui l'atout de la série?
Oui, complètement. Steve Carell est impeccable, en général souvent incompétent, mais pas si mauvais bougre que ça. D'ailleurs, son personnage évolue tout au long de la série, il prend de l'épaisseur. Et c'est assez touchant de voir comment il gagne en ouverture d'esprit. Mais c'est pas le seul comédien à apporter la série, le casting il est vraiment top. On retrouve notamment John Malkovich dans le rôle de la tête pensante.
Oui. Ouais.
Il joue le docteur Mallory, un chercheur rigoureux, un homme doux qui va tirer vers le haut le général. Moi, il m'a fait un peu penser, vous savez, au docteur Anthony Fauci qu'on avait vu pendant la crise du Covid-19 avec Donald Trump lors des points presse. Bref, son duo avec Nerd fonctionne très bien, c'est le gros point fort de la série. Et puis pour finir, petit bonus, si vous aussi vous êtes nostalgique de la série Friends comme moi, sachez que vous pourrez apercevoir la comique Lisa Kudrow, alias Phoebe, qui joue la femme du général. Alors c'est un petit rôle, mais quand même, ça fait plaisir de la voir.
Et alors, on peut la voir où justement? Où est-ce qu'elle est disponible, cette série?
Alors, il y a 10 épisodes, et ils sont tous disponibles sur Netflix.
Elie Semoun, ça vous tente?
Pas du tout. Elle parle très très bien, mais pas du tout. J'aime pas trop Steve Carell.
Ah oui? Pourquoi ?
Je trouve qu'il en fait trop. Je trouve que parfois, il manque un peu de finesse et de subtilité. Je me permets de dire ça, hein, mais bon, ça manque un peu de modestie. Mais j'aime pas. Je préfère Ricky Gervais.
Ouais.
De loin, 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 loin.
Qu'est-ce que vous regardez comme série, tant est que vous en regardiez ? Vous disiez que vous arrivez à en suivre aucune.
Pas vraiment beaucoup. J'en ai regardé une qui est un peu nulle, qui s'appelle Blacklist,
ouais.
qui passait sur TF1 et puis qui est complètement. Enfin, c'est pas du tout réaliste, mais bon, c'est pas grave, je me suis laissé tenter par ça.
Et
j'ai beaucoup regardé Ricky Gervais aussi, Afterlife.
Ça vous tente d'en réaliser maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la caméra ?
De l'autre côté, pas vraiment.
Pourquoi ?
Ça me fait pas rêver, moi, de faire un truc que les gens vont regarder sur leur iPhone. Bof. Je suis un homme de spectacle et j'aime le grand écran et j'aime le spectacle, donc non. Pour l'instant, non.
Vous connaissez la phrase géniale de Godard sur le cinéma et la télé ?
Ouais, non.
À la télé, on baisse la tête, au cinéma, on lève les yeux.
Oui, c'est ça. Voilà. Et on se souvient de ce qu'on a vu au cinéma, on ne se souvient pas de ce qu'on a vu à la télé.
On se souvient de ce qu'on entend dans les émissions, ouais. Notamment Elise Moon, vous restez avec nous. Bon. Salut Clémence Olivier.
Elle n'est pas d'accord, Clémence.
Elle fait non, Clémence.
Non, mais elle a sûrement raison.
Dernière sûrement partie raison. De Culture Média avec notre invitée Elise Moon dans un court instant sur Europe.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Elise Moon est notre invitée pour la sortie en DVD de Duc au but 3 et son retour au cinéma depuis lundi, Philippe.
Et puis pendant le confinement, Elise Moon vous a également interpellé le ministre de la Culture, c'est notre sujet, sur les réseaux sociaux. Vous avez l'impression que le gouvernement n'a pas fait assez pour la culture. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ?
Je l'ai trouvé un peu comme... Je pense que j'étais un peu la voix de mes collègues artistes, je l'ai trouvé un peu silencieux. Mmh. Après, j'étais agréablement surpris parce que nos techniciens sont protégés. Ils ont une année blanche, donc ils vont être payés.
Pour les intermittents.
Pour les intermittents.
Ils peuvent toucher l'argent qu'ils devraient toucher sans même avoir travaillé.
Ouais, alors,
normalement, il faut justifier d'un certain nombre d'heures.
Ce qu'ils faisaient avant, d'ailleurs.
Ouais.
Non, je plaisante. Non. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, j'ai eu la sensation que la culture était un peu mise de côté, alors qu'elle est indispensable. Qu'est-ce que les gens ont fait pendant le confinement ? Ils ont regardé des films, ils ont écouté de la musique, ils ont lu des bouquins.
Et même
ils se sont nourris de culture.
Et donc même en termes économiques, ce sont des emplois. Et ça fait vivre des régions et des familles.
On a été peut-être moins utiles que les infirmières, évidemment, le milieu hospitalier, mais on a été utiles quand même.
Mais peut-être aussi autant que l'aéronautique ou l'automobile, des secteurs
exactement.
Qui ont été aidés. Ouais. Juste des nouvelles de votre papa, je vous en parle. Parce que
ah, mon papa.
Je alors, raconte.
Il est dans son EHPAD.
Il est dans un EHPAD.
Voilà, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, il a 88 ans. C'est pour l'instant, il nous reconnaît, hein, ça va. Et donc, j'ai lancé un appel pendant le confinement pour obtenir des masques, des blouses. Pas pour lui, mais pour le personnel hospitalier.
Oui, parce que cet EHPAD qui se trouve à Lyon était dans un total dénuement.
Il était complètement démuni. Ouais.
Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien.
Donc, ils ont eu ça. Les EHPAD aux alentours en ont profité. Donc, ça a été utile. Comme quoi, la notoriété, parfois, sert à quelque chose.
Quelle leçon, tant est qu'on puisse en tirer une leçon, vous avez tirée de cette crise du coronavirus et du confinement ?
Je ne sais pas si je peux en tirer une leçon, mais je n'ai pas trouvé ça terrible comme période. Ça ne m'a pas plu.
C'est des gens qui ont trouvé ça terrible ?
Non, oui, je connais des gens qui ont aimé, parce qu'ils se sont retrouvés avec leur famille, avec leurs enfants, qui ont pu faire des travaux chez eux. Mmh. Mais franchement, à part ça, je trouvais ça assez dégueulasse comme période.
Vous avez continué à écrire des chansons ? Vous nous
et
disiez
et
vous
la fameuse vie d'après, bof. Hein.
Ouais.
Hein bon.
Dit-il en train de tournicoter son masque. Ça ressemble beaucoup à la vie d'avant.
Ça ressemble beaucoup à la vie d'avant.
Prochain projet, vous travaillez sur quoi alors maintenant ? Duc au but 4 ?
Oui, Duc au but 4.
Vous l'écrivez ?
Oui, je l'écris. Donc c'est déjà pas mal. Et puis l'espoir de remonter sur scène. Enfin, je vais remonter sur scène à partir du mois de septembre en tournée et fin décembre au Casino de Paris. Donc ça, c'est chouette.
Justement,
c'est un bonheur pour moi.
À propos de gens qui montent sur scène, Jean-Marie Bigard qui finalement se présente à l'élection présidentielle.
Ah oui. J'ai halluciné en apprenant ça. Je trouve que c'est une grosse connerie. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. C'est peut-être pour flatter son égo, mais il ne devrait pas. Il va y laisser des plumes, le pauvre.
Quelles plumes il peut laisser ?
Mais la politique et l'humour, ça n'a jamais fait bon ménage. Il faut qu'on reste à notre place. On est des bouffons. On peut se moquer des hommes politiques. On est très bien placés pour s'en moquer. Mais quand tout d'un coup, on fait partie du clan, c'est plus possible. Il ne faut pas qu'ils se prennent au sérieux, il faut qu'ils continuent à nous faire rire. On voit ce que ça a donné sur Coluche, sur
Coluche arrêté en race campagne.
Ouais, voilà, regardez ce que ça donne avec Dieudo, c'est n'importe quoi. Moi, comme je l'ai dit dans le Parisien, bon, ce matin, mais j'ai plus de respect pour un homme politique qui viendrait dans le milieu de l'humour que le contraire. Moi, je pense qu'on a, il a rien à faire là-dedans.
Vous allez lui dire à Bigard si vous le croisez
oui,
aussi
bien
au téléphone.
Sûr, bien sûr, évidemment. Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Elise Moon, d'avoir été avec nous. Je rappelle, Du Cobu 3, c'est en salle et c'est en DVD. Et vous avez passé le 1,5 million largement. Largement. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec des youtubeurs, vous les connaissez, Natou et Ludovic.
Oui. Ouais.
Ils ont un programme qui va arriver sur Amazon Prime. Et on sera également avec Thomas Dubois, qui est en charge des programmes d'Amazon Prime Vidéo. Donc, Natou et Ludovic, demain dans Culture Média. Et Michel Bougenat, je ne vous demande pas si vous le connaissez. Vous le connaissez,
bah oui, je le connais.
Pour le festival du Ramatuel qui justement aura lieu, c'est une bonne nouvelle. Salut Céline Dacosta, à
salut,
demain.
Merci, salut, salut à tout le monde,
salut,
salut
Philippe
à la Belgique,
à demain.